Bonjour à tous. Et je suis absolument ravi de voir cette belle salle, tout le travail que vous avez accompli là-dedans. Je suis parce que je reçois un petit peu les messages par Internet, là. Alors, je sais qu'il y a toujours du ménage à faire le samedi soir. Et qu'il y a beaucoup de volontaires dans la salle. Donc, je me réjouis. Merci aussi d'avoir mis les locaux à disposition pour qu'on puisse vraiment faire notre rencontre. ACEB, donc ACEB, c'est Association Chrétienne d'Expression Berbère. Voilà, donc ce monde berbère qui vit en Afrique du Nord en général, et parmi lesquels on travaille de différentes manières. Alors, j'ai bien sûr préparé un message, mais je crois que je vais le... Parce qu'on a eu une autre idée hier soir, on m'a parlé, c'est toujours une grande joie de se retrouver entre frères et sœurs, puisqu'on se voit finalement pas tant que ça. Les uns vivent dans la région parisienne, d'autres à Lyon, d'autres à Marseille, etc. Et je me suis dit, ça serait vraiment bien de leur donner un petit temps de parole à chacun, pour qu'ils puissent exprimer un petit peu leur témoignage, un autre témoignage, et aussi ce qu'ils font. Et ça vous donnera un petit peu une image, comme une mosaïque, un petit peu de ce qui se fait, aussi bien en France ou en Europe, mais aussi de l'autre côté là-bas. Et je résumerai le tout à la fin pour vous donner un peu des nouvelles, que ça puisse vous encourager à continuer à persévérer dans la prière. Je sais que beaucoup prient pour nous, et on le ressent, sincèrement. Et bien des fois où on est devant un mur, et puis... On lève un petit peu les yeux en haut, et puis hop, d'un seul coup, ça y est, ça se libère. Donc, par qui on va commencer? Bon, je crois que je vais inviter Karim, donc qui est un frère de ma région. Lequel? Celui-là, voilà. Bon, ils s'appellent tous les deux Karim. Hein. Il en faut un. Donc je vais lui laisser la parole. Donc on a fait un camp d'été juste dans la ville où il est, c'est-à-dire à combien, 15-18
km? 25
km. 25, voilà. Je ne sais plus compter. Hein. 25 km de Géa, donc. Et où il y a tout un travail qui se développe là. Ils ont un parler un peu spécial, c'est-à-dire entre le Kabyle et le Chaoui à peu près. Donc il y a des traductions qui ont commencé, qui ont démarré là-dedans, et puis... ils animent des émissions télé aussi et tout. Donc, il y a vraiment des choses formidables. Donc, je laisse la parole pour qu'ils puissent raconter tout ce que le Seigneur fait.
Amen. Merci, mon frère Moustapha. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Donc, c'est toujours un privilège de pouvoir partager son témoignage auprès des frères et sœurs. Comme on l'a chanté ce matin, chrétien, réjouis-toi. Réjouis-toi toujours. Comme vous le voyez, je suis issu d'une famille bouddhiste, pardon, d'une famille musulmane. Donc, j'ai passé ma jeunesse, mon adolescence dans l'islam. Et puis, je m'appelle Karim, j'habite donc dans le nord de Paris, dans le département de l'Oise. Et je suis issu donc des fruits de la sève, ACEB. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, notamment auprès de notre sœur Nadia. Donc, il a parlé avec un frère, Brahim, et c'est ce frère-là qui m'en a parlé. Donc, il y a quelques années en arrière, je vivais avec mon époux, enfin, ma fiancée à l'époque, dans un studio parisien. On travaillait tous les deux, et puis un soir, en rentrant à la maison, ma fiancée m'a dit, « Karim, ça y est, j'ai trouvé mon Dieu. » Ça m'a étonné. Je dis, ouais, elle s'appelle Farida, donc Farida, tu sais que nous, on est bouddhistes, pardon, on est musulmans, et donc, mais c'est le sceau des prophètes. C'est ce qu'on nous a toujours inculqué, donc c'est le sceau des prophètes, c'est le dernier des prophètes, il n'y aura personne d'autre, c'est le seul qu'il faut suivre. Bon, ça s'est raté là, elle avait donc... un petit livret, donc un seul chemin, d'Alain Chouaki. Elle m'avait raconté qu'il a rencontré donc une femme nord-africaine d'origine kabyle, qui lui a parlé de Jésus, qui lui a témoigné. Bon, une semaine passée, j'ai remarqué que ça a changé. Donc il y a eu du changement dans la maison. Avant, pour un petit truc de rien du tout, on se bagarrait, on se chamaillait à la maison. Et pendant une semaine, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment la paix. Elle était paisible. Il y avait la paix à la maison. C'est ce qui m'a attiré. Donc j'ai commencé à m'intéresser à son Dieu. Et elle avait un numéro de téléphone que la sœur lui a donné. Et j'ai appelé ce numéro-là. Donc c'était le frère, Brahim, qui était là. Et qui m'a donné rendez-vous donc dans un café parisien. Ce jour-là, donc je suis parti à ce rendez-vous. Et il m'a raconté son témoignage, comment il a rencontré le Seigneur. Et il m'a donné la Bible. Bon, je prenais la Bible, c'était la première fois que j'avais la Bible entre les mains. Mais rassurez-vous, donc je ne l'ai pas déchirée, je ne l'ai pas jetée. Au contraire, il y a quelque chose au fond de moi-même qui me pressait pour aller lire ce livre. Je suis rentré à la maison, donc j'ai commencé à lire, bien sûr par le Nouveau Testament, l'Évangile. Et là, j'ai découvert un grand prophète qui faisait que du bien autour de lui, qui guérissait les malades, ressuscitait les morts, mais partout où il passait, il faisait que du bien. Tout en continuant à lire, donc le Saint-Esprit travaillait en moi, en citant quelques versets comme on a lu ce matin, notamment dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang et pas de pardon, 25, 26, un seul est mort pour tous. Donc, Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en lisant ces versets-là et bien d'autres, le Saint-Esprit travaille en moi, donc, et là, je me suis senti vraiment plein de péchés, loin de Dieu. Et je me suis agenouillé, j'ai demandé pardon, Seigneur, et je lui ai donné ma vie, je lui ai offert mon cœur. Et ma femme aussi, donc, pareil, elle a donné son cœur au Seigneur. Tous les deux, donc, on a décidé vraiment de se mettre en règle devant Dieu, donc de se marier et de se baptiser. Donc, dans une église en région parisienne, à Boulogne, le point du jour, pour ceux qui connaissent, donc on s'est baptisé le même jour, moi et ma femme. On est parti à la mairie, donc on s'est marié à la mairie du 17e arrondissement. Nadia était là, Mustapha, le frère Mustapha aussi, il était là aussi, donc, pendant le mariage. Et donc, le samedi, le dimanche d'après, on s'est baptisé à l'église. Donc, tout ça, on est une semaine. Vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est un Dieu de miracles. Il a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Donc, après notre mariage, gloire à Dieu, donc on s'est marié, on s'est baptisé, on s'est mis en règle devant Dieu. Une année a passé, 2 ans, 3 ans, on n'a pas d'enfant. Et vous savez, pour un Kabyle, surtout quand il n'y a pas de garçon, c'est un peu difficile. Et donc, bon, j'étais en contact avec ma mère, donc ma mère qui vit d'ailleurs aujourd'hui en Algérie. Je l'appelais, et puis elle me dit, mon fils, je crois qu'il faut que tu reviennes à l'islam. Et Mahomet, il va te donner des enfants. Et moi, je me rappelle, comme aujourd'hui, j'ai dit, ma mère, ben, Jésus va me donner des enfants. Donc, je tenais cette promesse. Et donc, on a prié. Donc, j'ai demandé à des frères et sœurs de prier. 3 ans ont passé, 4 ans. Et puis, il y a une sœur, donc, Mamie Rosa, qui nous a prophétisé un jour, vous aurez des jumeaux. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, donc, une année après. Au bout de la 5e année après notre mariage, ma femme avait rêvé aussi, donc, d'avoir des jumeaux. Dieu nous a donné des jumeaux. En plus, un garçon et une fille. me rappelais toujours aussi mon oncle. J'ai appelé mon oncle aussi pour lui dire la nouvelle. Voilà, donc mon oncle Khalil, du côté de ma mère. Je lui dis, moi, on a des enfants, donc un garçon et une fille. Elle me dit, ah, bah, c'est le choix du roi. C'est ce qu'on dit, c'est le choix du roi. Je lui dis, ouais, c'est le choix du roi des rois. Voilà, donc vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses donc, dans nos vies. On est parti, donc, ma femme est d'origine marocaine. On est parti en vacances en 2007. Et je me rappelle, et donc, après des vacances, donc, au retour, donc, j'avais un grand véhicule. Il y a l'autoroute là-bas, donc, du retour jusqu'à de Fès jusqu'à Tanger, donc il y a à peu près 450, 500 kilomètres. Bon, il me restait un quart donc, dans le réservoir, gasoil. Je me dis, bon, ben, comme le gasoil n'est pas cher là-bas au Maroc, je vais à la dernière minute et je vais faire le plein. Il était à l'époque 0,70 euros le litre. En France, c'était 1,20 euro ou 1,10 euro. Bon, je prends l'autoroute, direction Tanger, donc le retour. Il y avait une première station. Bon, j'ai dit, bon, il me reste encore un quart, je vais faire à la prochaine station. Bon, ils annonçaient la prochaine station, 40 kilomètres. 40 kilomètres après, je trouve la station, mais elle n'était pas encore ouverte. Donc, elles étaient en plein travaux. Comment faire? J'ai dit, bon, j'espère que je trouverai une autre station, peut-être 20 kilomètres après. 20 kilomètres après, pas de station. 30 kilomètres, 40 kilomètres. Et c'était à la tombée de la nuit, donc il y a ma femme, il y a trois enfants, donc il y avait... Donc oui, parce que, excusez-moi, le Seigneur nous a donné donc un deuxième garçon et deux autres garçons. Et puis donc là, on a le dernier garçon, il a 10 mois. Donc à l'époque, on avait trois enfants, donc les trois enfants derrière. Donc c'est peut-être 100 kilomètres après, ça y est, j'ai commencé à avoir une première ratée. Et vous savez, en général, quand on a les premiers ratés, ça ne va pas tarder. Et les autoroutes là-bas au Maroc, bon, la bande d'arrêt d'urgence, c'est très petit. Et comment faire, la tombée de la nuit et tout, ah, ça commençait à m'inquiéter au fond de moi-même. Et voilà, au fond de moi-même, je priais au Seigneur, donc ma femme aussi priait aussi. Et j'ai dit aux enfants, allez, on va louer le Seigneur. Je loue ton nom, éternel. On commençait à louer le Seigneur. Et on louait, bon. Deuxième raté. Allez, on continue les enfants. Je loue ton nom, éternel. Et voilà, donc après, donc, troisième raté. Et finalement, ça s'est pas arrêté. Et heureusement que j'ai vu donc une prochaine sortie. 7-5 kilomètres plus loin, on est sorti. Et là, on a payé. J'ai demandé donc au gars qui était au bureau, la prochaine station, il m'a dit, dans 2 kilomètres à gauche, vous allez trouver. Et je me rappelle, je suis arrivé à la station, j'ai fait le plein, mais pour redémarrer, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas une goutte d'essence. Vraiment que, pour vous dire que le Seigneur est un Dieu de miracles. Quand on le demande, on lui demande, le Seigneur y répond. Parce que, quand on lui donne son cœur, on lui donne sa vie, il est là, il répond à nos prières. Et il est vivant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, quand on était dans l'islam, c'est vrai, on nous parlait de l'islam, on nous rabâchait ceci ou cela, le prophète, etc. Plein de choses, mais Jésus est la vérité. Mon frère, ma sœur, chrétien, chrétienne, réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi toujours. Amen. Amen.
Merci Karine. Au suivant.
Est-ce qu'on... Voilà, donc Karine encore. On a aussi une sœur qui veut donner un témoignage. Allez.
Bonjour à tous. Pour moi, c'est la deuxième fois que je viens dans cette église. Donc, je suis déjà passé par là l'année passée. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Moi, je m'appelle Karine, d'accord, mais je ne suis pas marié à une Marocaine. Je suis marié à une Française. Et donc, on a réconcilié la France et l'Algérie. Donc, comme on le sait tous, la France et l'Algérie, c'était... Voilà, et mon grand-père, du côté de mon père, a été tué pendant cette guerre. Et le père, ma femme, a été soldat dans ma ville pendant la guerre d'Algérie. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut faire quand on annonce les nouvelles. Donc ma femme, quand elle a annoncé à son père qu'elle allait se marier avec un Kabyle, voilà, bienvenue les dégâts. Bon, pour mes parents, ça va, ils ont accepté un peu les choses, pas de problème. Mais, bon, tout s'est bien passé, sauf que de ce côté à elle, ses parents continuaient à me bouder un petit peu, tout en me rassurant que son père n'a jamais tué quelqu'un, il l'a jamais tiré, donc, je dis pas de problème, c'est pas de ta faute. Et donc, pour mon témoignage, moi je me suis converti en 87. En 87, c'était en Algérie. Et j'ai connu un ami, je l'ai connu pas chrétien, j'ai jamais entendu d'un chrétien algérien. Et d'un seul coup, cet ami, je me rappelle, on faisait de la musique ensemble au lycée et tout ça, puis d'un seul coup, il s'est mis à parler de Jésus. Hier, tu étais musulman, aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, comment se fait-il? Ça veut dire quoi? Alors, il m'explique que ça y est, il a trouvé la vérité, le bon chemin, c'est plus l'islam. Le vrai chemin et tout ça. Je dis, mais comment ça, t'as renié tes origines, ça y est, tu veux devenir européen, donc pour nous, c'est le christianisme, c'est la religion des Européens uniquement. On oublie que Jésus est oriental, qui est né en Palestine et tout ça. Donc, ça y est, tu veux devenir européen, tu veux renier tes origines et tout ça. Il me dit non, il m'explique. Bon, il me dit en tout cas, pour nous, on se réunit, on prie, tous les jours en plus. Je dis, ben écoute, j'ai envie de voir ce que vous faites, mais je ne deviendrai jamais comme vous, chrétien. Est-ce que c'est possible que je vienne juste pour voir de loin comme ça, comment vous priez, comment vous... Alors il me dit, oui, il n'y a pas de souci, si tu veux venir, tu viens. Bon. Sauf qu'il ne m'a pas précisé l'endroit, le lieu où il se réunissait pour prier. Bon. Déjà, il faut attendre que la nuit tombe pour partir. Et il fallait partir deux par deux pour ne pas attirer l'attention des gens. Donc, arriver devant un endroit, il fallait sauter le mur. Donc, pour rentrer dans... Je ne savais pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'était un cimetière, en fait. Donc, il faut sauter le mur pour prier dans le cimetière la nuit. Bon, ça y est, je ne pouvais plus reculer. Donc, j'ai grimpé le mur. Et il fallait s'asseoir par terre sur des tombeaux, carrément. Et bon... Je commençais à trembler, à avoir peur, bien sûr, parce que bon, chez nous, le cimetière, c'est un peu un endroit... même la journée, on évite de passer devant. Donc, alors là, la nuit, est carrément assis sur une tombe. Bon. Ils commençaient à sortir leur petit Nouveau Testament de poche. Et le plus ancien du groupe avait 2 mois de conversion, donc. C'était tellement nouveau. Puis commençait à chanter, commençait à prier. Et pour la prière, donc je voyais qu'ils fermaient tous les yeux pour prier. Bon, déjà en ouvrant les yeux comme ça, on a peur. Alors là, fermer les yeux. Donc, c'était pas facile. Bon, je n'ai pas voulu fermer les yeux, j'ai pas pu. J'avais peur, je tremblais, je comprenais rien. Mais au fond de moi, j'étais paisible. Je sentais une paix que j'ai jamais connue, que j'ai jamais sentie auparavant. Et ce que j'entendais, les mots que j'entendais, je les ai jamais entendus aussi, tels que Dieu notre Père, alors que dans ce qu'on avait connu sur Dieu avant, Dieu était il est là pour nous punir, pour nous jeter au feu, ainsi de suite. Et là, j'entends que Dieu est un Père pour nous. Il connaît ses enfants, donc un Père ne jettera jamais ses enfants au feu. Il chantait des louanges, c'était beau. Dieu d'amour, Dieu qui sauve, toutes ces paroles-là me plaisaient. Donc j'avais peur, mais mon cœur était apaisé, il était rempli de paix. Je m'étais dit, ces gens-là, ils ont quelque chose que je n'ai pas. À la fin de la réunion, je leur ai dit, dites-moi votre prochaine réunion parce que ça m'intéresse, j'ai envie de revenir. Alors ils me disaient, tous les soirs on est là, la même heure, on est tous les jours dans le même endroit, pas de problème, tu peux venir quand tu veux. Effectivement, c'était chaque soir, j'allais là-bas et je faisais 6-7 kilomètres à pied pour assister donc à la réunion. Je le faisais tous les jours. J'avais tellement soif, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Et je me rappelle, j'étais lycéen, donc j'ai carrément laissé de côté mes études. Et le prof parlait en classe, et moi je recopiais le Nouveau Testament à la main, donc je l'ai presque recopié en entier. Et le jour du bac, j'avais rien, c'est normal. J'ai continué comme ça, donc un jour j'ai déclaré ma foi et tout ça, et j'arrive à la maison, j'annonce que, vous savez, je suis chrétien, j'avais une Bible et tout ça. Et puis, finalement, tout le village a su que je suis devenu chrétien, et j'étais donc le seul chrétien du village. Le groupe que j'ai connu, c'était à 60 km de mon village, donc le lycée était là-bas. Et c'était tous les gens du village qui venaient voir mon père pour lui dire, voilà, ton fils, il lit la Bible, c'est pas bien, et quelqu'un l'a influencé, lui a embourré la tête avec tout ça. Puis mon père, il vient et carrément, il me tape. Non. Il y a 2 semaines en arrière, je lui rappelais ça, je lui disais, tu te souviens le jour où tu m'as carrément tabassé? Il me dit, ah bon, j'ai fait ça? Je dis, oui, tu m'as tapé. Je ne me rappelle pas. Donc, pour lui, il a carrément changé. Maintenant, il est fier de moi, parce que dans le village, il parle, ah oui, vous voyez celui que vous voyez à la télévision, c'est mon fils, hein. Et c'est des... Donc, j'ai commencé à faire des émissions de télé, donc, où on parle de notre foi, on partage, en Kabyle, bien sûr. Et il m'appelle, il me dit, tu sais, dans le café du village, c'est carrément, tous les jours, c'est toi qui passes maintenant, et tous les gens te regardent, il est fier, il est tout content de voir son fils qui parle de Jésus aux autres. J'ai dit, c'est bien ce qu'on dit ou pas? Il me dit, oh, bien sûr, c'est très bien ce que vous dites. Continue. Et je lui ai rappelé quelque chose, je lui ai dit, tu te souviens quand j'avais 14 ans, tu me disais qu'un jour tu voulais que je devienne animateur. Et c'était carrément ces paroles. Il me dit, je me rappelle bien. Bah, il me dit, voilà, c'est ton souhait aujourd'hui, je suis animateur. Voilà. Et depuis, et comment j'ai connu Mustapha, alors quand j'ai vu les chrétiens chanter, je m'étais dit, tiens, et si j'essaye d'écrire, je sais pas, un petit poème comme ça, des petits poèmes pour les chanter aussi. Je me suis mis à écrire, et c'est là que j'ai découvert un don de poésie en moi que je ne connaissais pas auparavant. J'ai écrit des textes et on m'a dit « Ah tiens, il y a quelqu'un qui a une association à Paris et puis qui cherche des artistes comme ça pour les enregistrer, des poètes et tout ça, pour passer leurs poèmes à la radio sur Monte-Carlo. » Je dis ben, il n'y a pas de problème. Et on m'a présenté Mustapha. Et on a enregistré des poèmes. Quand j'ai entendu mes poèmes à la radio, ça m'a encore aidé, ça m'a encouragé d'écrire plus, d'aller plus loin. Un jour, j'avais organisé dans une rencontre culturelle un concours de poésie dans la ville où j'étais. C'était un concours national. Bon, j'ai ramassé tous les poèmes que j'ai écrits. Je savais pas écrire sur autre chose. J'écrivais sur ce que je lisais dans la Bible. Donc, c'était que ça. Donc, j'ai rassemblé tout ce que j'ai écrit. Je les ai mis au propre. J'ai déposé mes textes. Et le jour où ils ont donné les résultats, j'étais troisième. J'étais classé troisième au niveau national. Ça m'a encore aidé, encouragé. Je pense que c'était venu même pour prendre des photos et tout ça. L'année d'après, pareil, je participe au concours et c'était carrément premier prix. Donc j'avais le premier prix avec un diplôme et tout ça. J'ai ramassé ce diplôme-là, je m'étais dit, tiens, et si je demande une émission culturelle de poésie à la radio locale, peut-être qu'ils pourront m'accorder quelque chose. Donc j'ai donné les pièces que j'avais et tout ça. Accord favorable. J'avais une émission sur une radio locale et j'invitais des jeunes talents, des poètes et tout ça. On faisait notre émission tous les jours comme ça. Et ça m'a aussi aidé. Et comme je vous ai dit, je ne savais pas écrire sur autre chose. J'écrivais que sur la Bible, que sur Jésus et tout ça. Et un jour, je recevais dans mes invités pour une émission un poète, un jeune poète qui me dit... Moi, j'ai une association, on organise un voyage en France. Si t'es intéressé, on peut t'envoyer en France, comme ça. J'ai dit, ben, comment ça se passe? Il me dit, il faut payer une somme de 700 euros. J'ai dit, ben, j'ai pas cette somme. Il me dit, tu payes la moitié. J'ai dit, non plus, j'ai pas cette somme. Il me dit, tu payes rien. J'ai dit, ben, j'ai même pas de passeport, alors comment... Il dit, non, tiens, je te donne ce nom, tu vas voir la personne et 2-3 jours, t'as ton passeport. Bon, c'est ce qui s'est passé. Il prend mon passeport, il me met le visa dessus, puis il me ramène un billet, il m'achète un costume, tout ça. Il me dit, t'as une semaine de prise en charge à Marseille, hôtel, restauration, tu peux y aller. Bon, j'arrive à Marseille, je passe ma semaine, je me dis, tiens, j'arrive à Marseille, je visite pas Paris, c'est quand même pas normal. Je monte à Paris, puis je regarde, je me dis, ben, il faut maintenant que je trouve pour passer la nuit qui va arriver le soir, et puis après, on fera autre chose. Le téléphone sonne, je réponds, et c'était un frère de mon village, parce que bon, j'étais le premier chrétien, il était le deuxième après moi. Il me dit, j'ai appris que tu es en France. Je dis, ben, je suis à Paris, mais je connais pas là où je suis. Il me dit, reste où tu es, dis-moi seulement, renseigne-toi, dis-moi où tu es, et je t'envoie quelqu'un. Il m'envoie quelqu'un, il m'accompagne, on me remet les clés, on me dit, voilà, tu dors là, tu restes là, et tout ça, bon. Ils m'ont dit, voilà, on te dépanne une semaine, pas de problème. Je suis resté là une semaine, deux semaines, un mois, une année, deux ans, trois ans. C'est parti comme ça. Mais bon, après, là, c'est pour dire comment j'ai atterri dans le monde de l'audiovisuel. C'est-à-dire, pour moi, ma vie est un poème. Ça a commencé avec un tout petit poème et ça m'a... et voilà là où j'ai atterri. Bon, ils ont démarré, commencé à faire des émissions en Kabyle, des émissions d'évangélisation. Ils préparaient donc les enregistrements. Il y avait trois personnes et une personne s'est désistée, ne pouvait pas y aller. Alors ils cherchaient un remplaçant. Ils m'ont dit, voilà, il nous manque quelqu'un, est-ce que tu pourrais participer à une de nos émissions? Je dis, ben, on peut essayer, pourquoi pas. J'ai fait de la radio, mais je n'ai jamais fait de la télévision. Ils m'ont dit, on essaye, on verra ce que ça va donner. Donc on a essayé, et ça a bien donné, et ils m'ont dit, et si tu crées toi-même ta propre émission? Tu serais l'animateur, tu ramènes deux autres personnes, et puis comme ça, vous animez une émission, vous parlez de différents sujets et tout ça, par rapport à la Bible, ainsi de suite. Je dis, ben, pourquoi pas? Je ramène deux invités, on fait une émission, et puis ils m'ont dit, ben, c'est très bien, crée encore une autre émission. Une troisième émission, ça marche. Puis ils m'ont dit, maintenant que tu passes à l'écran, ça serait bien que tu fasses le travail de suite, c'est-à-dire quand les gens appellent, ça serait bien que ça soit toi qui réponds. Ben, je lui dis, ça serait avec plaisir. Et ils m'ont dit, voilà, on te donne un petit salaire par mois, et puis, donc, du coup, je dormais là-bas, le numéro de téléphone qui s'affichait à l'écran, c'était là-bas, donc je répondais et je travaillais là-bas, je suis bien. Continuer comme ça, et puis un jour, j'ai vu quelqu'un qui cherchait pour la traduction d'un livre en kabyle, il cherchait quelqu'un pour le traduire. Bon, là où je faisais des émissions, j'étais à mi-temps en fait. Puis ce frère, j'ai dit, ben, je peux prendre le projet, je peux traduire le livre, je vais essayer. J'ai jamais fait ça, mais je vais essayer. J'ai pris le livre, je le traduis. Et puis il me dit, tu fais quoi? Ben, j'ai dit, voilà, je fais le travail de suite pour CNA, donc chaîne nord-africaine. J'ai fait des émissions de télé, mais j'aimerais bien évoluer dans ce domaine de l'audiovisuel et tout ça. Alors il me dit, voilà, nous on a un studio et on peut t'engager à plein temps dans notre studio avec notre équipe, si tu es d'accord. Ben, je lui dis, j'attends que ça. Et ça me fait maintenant presque 6 ans que je suis dans cette mission qui s'appelle Agapé, donc je pense que c'est connu un petit peu. Et je suis producteur donc d'émissions en kabyle pour le satellite. Donc voilà. Donc je produis moi-même des émissions. Et là, on a un projet d'émission. Et ça sera Mustapha qui sera animateur, donc c'est des émissions en français, donc ça sera pas que pour l'Afrique du Nord, mais pour l'Europe aussi. Donc voilà un petit peu le résumé de... Voilà. Merci beaucoup.
Voilà, c'est toujours encourageant de voir comment les choses cheminent et s'enclenchent les unes avec les autres. On va demander à une sœur encore de donner un mot de témoignage. Malika, donc... de la région parisienne aussi.
Oui, bonjour mes frères et sœurs, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je suis effectivement venue dans le cadre de la SEB et je vais vous raconter un peu mon parcours. En fait, je suis aussi née dans une famille musulmane, mais qui était plutôt pratiquante par tradition, pas du tout par conviction. Vers l'âge de 12 ans, un jour, je me souviens, j'ai demandé à ma mère « Je ne comprends pas, maman, pourquoi tu m'as mis au monde, puisque je vais mourir, c'est vraiment bête, ça ne sert à rien de faire des enfants. » Ma mère, elle me dit « Tu me casses les pieds avec tes questions. » Et donc voilà, mais je ne comprenais vraiment pas à quoi ça servait de vivre. C'était pour mourir, franchement, c'était pas logique pour moi. Et puis voilà, puis je croyais en Dieu, ça c'est vrai que... Bon, ma mère m'a parlé de Dieu depuis toujours, donc je pensais qu'il existait, je croyais vraiment en lui, mais pour moi c'était pas normal qu'il y ait le Dieu des Arabes, le Dieu des Français, qui est le Dieu des Juifs. En fait, pour moi, moi je voulais bien croire en un Dieu, mais un Dieu qui aimait tous les hommes de la même façon. Donc moi je n'étais pas d'accord avec cette religion musulmane. Et j'ai pourtant cherché Dieu, je me suis dit, il doit exister, parce que, enfin, il est quelque part, mais je ne sais pas où il est. Donc je l'ai cherché partout, enfin partout à l'époque, et puis même plus tard, même en étant mariée, en ayant des enfants, je l'ai toujours cherché en fait. Je l'ai cherché à travers la philosophie, je l'ai cherché dans certaines religions. Donc, dans le monde musulman, je me suis acheté un Coran, j'ai lu, j'ai pas trouvé. Je l'ai cherché même auprès d'une organisation qui avait, eux, la Bible. Alors là, j'étais contente. Je me souviens quand je les ai rencontrés, ces gens-là. J'ai vraiment cru que j'avais trouvé Dieu que je cherchais. Parce qu'en fait, contrairement à ma mère, ces gens-là m'ont donné des réponses. Et ils avaient la Bible. D'ailleurs, j'ai toujours cette fameuse première Bible qu'ils m'ont donnée. Je l'aimais beaucoup parce que il y avait vraiment des conseils extraordinaires à l'intérieur. Donc oui, je découvrais quelque chose qui me rapprochait de celui que je cherchais, mais c'était pas encore ça. Je les ai fréquentés pendant plusieurs années, et aujourd'hui je remercie le Seigneur parce que je comprends certaines choses. Et le fait d'avoir cette Bible à la maison, ça m'a aidé dans l'éducation des 5 enfants. Parce qu'il y avait des vérités à l'intérieur qui étaient chères à mon cœur. Et voilà, par rapport à l'éducation que je leur donnais, elle était différente de celle que moi j'avais reçue, par rapport à ma compréhension. Et un jour, c'était à l'époque de fac, je passe devant une église catholique et je vois sur des tables des feuilles. Enfin, donc maintenant, je sais que c'est des rameaux, mais à l'époque, je ne savais pas. Moi, je me suis demandé ce que c'était que ces branchages sur les tables. Et je me souviens, j'étais rentrée dans cette église pour assister au culte Pâques, où je venais, mais sans plus en fait, hein, il n'y avait toujours pas de Dieu là-dedans non plus. Et en sortant, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça peut être, ce truc vert? Et je me suis souvenu que près de chez moi, il y avait une librairie chrétienne berbère, donc la Seine. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir la dame, je vais lui demander ce que c'est que ces trucs verts. Donc je suis allée la voir, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais savoir ce que c'est que ces trucs verts que j'ai vus... Genre, il y a hier ou avant-hier, hein, j'y suis allée tout de suite à la scène. Et puis elle m'explique les rameaux, etc. Et puis elle me regarde, puis elle me dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Vous cherchez Dieu? Je lui dis, oui, je cherche Dieu, mais depuis plus de 20 ans. Elle me dit, plus de 20 ans? Ben, je lui dis, oui. Elle me dit, mais vous l'avez cherché où? Ben, je lui dis, je le cherche partout. Elle me dit, comment ça, partout? Ben, je lui dis, je sais pas, je l'ai cherché dans la philosophie, dans le Coran. Elle me dit, vous avez la Bible? Je lui dis, oui, j'ai la Bible chez moi. D'ailleurs, je l'ai et j'ai cru même que je l'avais trouvée. Un jour, j'ai rencontré un groupe qui l'avait, il y avait des réunions, il y avait des prières. Et franchement, j'ai cru que je l'avais trouvée chez eux. Mais j'ai été déçue, et là non plus, c'était pas le Dieu que je cherchais. Donc le Dieu qui aimait les gens de partout, en fait, de tous les peuples. Donc je lui dis, non, c'était une preuve qui était là, mais bon, c'était déjà mieux que ce que mes parents m'avaient appris. Mais non, c'était pas ça. Elle me dit, vous avez la Bible chez vous? Je lui dis, oui, j'ai la Bible chez moi. Elle me dit, vous priez? Bon, je lui dis, oui, je prie de temps en temps quand j'ai des problèmes, je demande à Dieu de m'aider, mais voilà, c'est tout. Et elle me dit, écoutez, je vous propose de reprendre votre Bible, de la lire, et de cette fois-ci de partir à partir des évangiles, parce que j'avais expliqué que moi j'avais lu depuis le début, en fait. Mais quand même dans l'ordre. Et elle me dit, reprenez votre Bible, et d'ailleurs c'est Nadia, hein, la libraire, c'est Nadia qui est là-bas. Et du coup, elle me dit, reprenez la Bible, et puis vous commencez à partir des évangiles, et vous lisez, puis vous verrez, puis vous priez. Bon, je me suis dit, ok, hein, comme moi je croyais en Dieu, pour moi c'était pas quelque chose d'impossible qu'elle me demandait ou de difficile à faire. Alors, donc, c'est le premier matin, j'ai commencé à prier, donc tous les matins, pendant plusieurs mois, je prenais ma Bible et je lisais à partir des évangiles. Bon, j'étais contente, mais voilà, il se passait rien. Et puis oui, elle m'avait dit, donc, lisez, puis vous verrez. Je savais pas ce que je devais voir, mais en tout cas, elle m'a dit ça. Donc j'ai lu la Bible pendant plusieurs mois, tous les matins je priais, tous les matins je continuais, et puis un jour, et ça, à partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Un jour, j'avais les yeux fermés, je priais, et pendant que j'avais les yeux fermés, j'avais la tête baissée comme ça, je priais, et en fait, j'ai vu ma tête ma tête, en fait, et de ma tête, toujours en ayant les yeux fermés, j'ai vu de l'eau sortir, c'était l'image de ma tête, avec de l'eau sortir de tous les orifices, en fait. Donc, il y avait de l'eau qui sortait de mes oreilles, de mon nez, de ma bouche, et puis de ma tête. Il y avait énormément d'eau, vraiment comme une fontaine qui sortait, qui jaillissait comme ça. Et je me suis mise à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Je pleurais, en fait. Bon, aujourd'hui, je comprends, hein, j'étais convaincue de péché, etc. Mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, je pleurais. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Alors, je pleurais, mais en même temps, je me rendais compte de ma vie, je voyais ma vie passer, enfin. Mais en même temps, j'étais, je peux pas expliquer avec des mots, mais j'ai, en fait, j'étais très heureuse de ce moment que je vivais, malgré toutes ces larmes et cette bizarrerie de la chose, en fait, hein. Mais à ce moment-là, pour moi, j'avais trouvé Dieu. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. Et effectivement, je ne me suis pas trompée, parce que j'ai continué le lendemain et les jours suivants, toujours à prier et à lire la Bible, mais une chose nouvelle s'était passée, c'est que je comprenais de mieux en mieux la Bible. Donc je suis retournée voir Nadia, je lui ai raconté mon histoire d'eau, et donc elle m'a expliqué des choses, etc. Et à partir de ce jour-là, beaucoup de choses ont changé au niveau de ma vie personnelle. Déjà, avant ce jour-là, le matin, je me couchais, le soir, j'étais normale, c'est-à-dire que j'étais bien, gaine, enfin normale. Et le matin, je me réveillais, je ne sais pas pourquoi, ben, j'étais pas bien en fait. J'avais une espèce de chape sur les épaules, ça m'arrivait pas tous les jours. Hein, j'étais pas du tout dépressive, ni morose, mais je ne sais pas pourquoi des fois, et je ne comprenais pas. Je me couchais bien, et il n'y avait rien qui s'était passé la nuit, j'avais bien dormi, et le matin, j'avais quelque chose qui me pesait, et du coup, j'étais pas bien, j'étais triste, j'avais pas vraiment envie de parler, enfin, je sais pas, c'était bizarre, quoi. Et à partir de ce jour-là, ça ne m'est plus jamais arrivé, ça, déjà, ça a changé. Au niveau de mes enfants aussi, à partir de ce jour-là, je comprenais de mieux en mieux la Bible. Après, j'ai eu le désir de trouver une église. Donc pareil, je suis retournée voir Nadia qui m'a donné le petit papier, une Bible par foyer. Donc j'ai cherché une église près de chez moi. Voilà, des choses se sont mises en place petit à petit. Et vraiment, depuis cette période, le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Il a béni donc mes 5 enfants, mes 2 petits-enfants. Il a même permis une réconciliation avec ma sœur. J'ai une sœur et on était fâchés depuis plusieurs années. Et vraiment, le Seigneur a permis que je change intérieurement et donc on s'est réconciliés. Il a permis aussi que je témoigne. Et ça, c'est vrai que j'ai de nombreuses occasions, et je remercie à chaque fois le Seigneur, de me donner des occasions de parler en fait de ce qui m'est arrivé, tout simplement. Donc je ne prêche pas spécialement pour les musulmans, mais voilà, des gens, quand ils, par exemple, j'ai fait de l'aumônerie à un moment, et sur mon badge, je visitais les malades dans le cadre d'un stage, et il y avait marqué « Malika, aumônerie protestante ». Alors, évidemment, il y avait des musulmans dans les gens que je visitais. « Malika, mais comment ça se fait, aumônerie protestante ?» Parce que dans les hôpitaux, on n'a pas le droit de parler de Dieu, en fait, sauf pour ceux qui nous demandent. Et du coup, moi, je ne parlais pas de Dieu, mais c'est des gens qui me demandaient pourquoi je faisais partie de l'équipe protestante. Du coup, je témoignais. Ben voilà, un jour j'ai rencontré Jésus et je leur raconte. Alors j'étais très contente. Et l'aumônier, il y avait un aumônier musulman, lui-même un jour m'a dit, mais comment ça se fait que tu visites les malades, là pour les protestants, mais tu sais que nous aussi on a besoin de bénévoles là, dans l'aumônerie musulmane. Et puis pareil, lui aussi, je lui ai donné mon témoignage. Et un jour, en rigolant, mais peut-être qu'il y avait un fond de vérité, il m'a dit, je tiens une liste et puis j'ai plein de prières, hein, si tu peux parler pour moi à Dieu. Et donc c'était rigolo parce que, en fait, au début, je me suis dit, oulala, il y a un aumônier musulman, à mon avis, ça va mal se passer, quoi. Et puis non, pas du tout, en fait. Hein, j'ai raconté, comme je vous raconte à vous, comment ça s'est passé. Ben voilà, hein, et d'ailleurs, à mon travail, à un moment, j'avais demandé une année sabbatique pour suivre une formation. À mon travail, ils m'ont dit, mais Malika, qu'est-ce qui t'est arrivé? Le bon Dieu t'est tombé sur la tête. Parce que j'aurais dit que je voulais faire une formation d'une année dans un institut. Justement parce que je voulais apprendre rapidement sur Dieu, pour parler aux gens, je ne voulais pas leur dire des bêtises. Et mes collègues m'avaient dit ça. Et c'est vrai que on a un Dieu merveilleux qui vraiment agit dans nos vies. Et oui, c'est vraiment extraordinaire quoi, de pouvoir raconter tout simplement ce qu'il a fait. Il y a le chant qui dit « Seigneur, prends en compte tous tes bienfaits, combien ils sont nombreux ». Et c'est vrai que on n'a pas l'occasion aujourd'hui, malheureusement, d'écouter le témoignage de chacun, mais si la parole vous était donnée, je suis certaine que c'est le même genre d'histoire que vous avez raconté. Donc vraiment, oui, gloire à Dieu. Et mes 5 enfants ne sont pas encore au Seigneur, mais je suis confiante. Je vais vous raconter une petite dernière anecdote. C'est ma fille, donc les 3 premiers sont partis, mais on reste 2 à la maison, dont principalement une, parce que l'autre fait des études en province. Et quand elle a passé son bac, elle me dit « Maman, là, j'ai peur, j'ai passé mon bac français, tu peux pas prier pour moi ?» J'ai dit « Tu sais, Emma, t'es pas muette, est-ce que je sache, tu peux prier, hein, Dieu va t'entendre comme il m'entend. » Et puis donc elle est partie passer son examen. Et quand elle est sortie de son examen, elle m'a envoyé un texto. Oh, elle me dit, maman, Dieu me kiffe. Elle me dit. Mais vraiment, et je l'ai gardé de nombreuses années ce téléphone, parce que quand je raconte, justement, je montre après, parce que j'ai vraiment la preuve, elle m'a marqué comme ça. Maman, j'ai une kiffe, je suis tombée sur le texte que je connaissais le mieux, je vais avoir une super note. Alors après, c'est vrai que moi, je n'osais pas, parce que moi, je voulais pas que mes parents se mêlent de ma foi. Moi, j'avais de la chance, j'étais l'aînée de secte, donc mes grands frères ne pouvaient ni me frapper, ni me faire pression, ni rien du tout. Donc, comme j'étais l'aînée, mais au niveau de mes enfants, comme moi je ne voulais pas qu'on mette des entraves dans ma foi, je ne voulais pas non plus m'immiscer dans la foi de ma fille, c'est-à-dire que je ne voulais pas lui demander alors, et moi au fait, bon ok, tu as eu ton meilleur texte là, mais est-ce que tu as prié? J'ai pas osé lui demander. Et puis un jour, bon j'ai laissé passer plusieurs jours, puis un jour, donc elle a eu ce résultat, elle avait une bonne note, puis un jour je lui ai dit au fait, n'oublie pas Emma, hein, il faut remercier le Seigneur hein, de t'avoir donné le meilleur texte et tout. Elle me dit, t'inquiète. Donc voilà, donc oui, enfin pour moi franchement je m'inquiète pas du tout, et pour mes enfants et pour ma famille, parce que voilà, moi j'avance, je leur témoigne de ce que je vis chaque jour, je suis engagée dans l'église, je fais une formation, et c'est vrai que mon désir, je dis au Seigneur, prends ma vie, prends tout, parce que franchement moi, au début quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, Seigneur, tu veux te servir de moi, mais tu sais, je viens du 9-3, donc la banlieue parisienne, où il y a beaucoup de soucis de sécurité, etc., enfin une époque, et je lui ai dit, je suis algérienne, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vis en France depuis toujours, mais moi je peux rien faire pour toi. En plus, je n'ai même pas le bac. Alors, franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et en fait, non, c'est vrai que la parole nous dit, enfin, le Seigneur, il n'y a pas de différence pour lui, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif. On est tous égaux et vraiment gloire à Dieu. Et c'est extraordinaire ma prière, c'est ça, c'est Seigneur, sers-toi de moi comme tu veux et façonne-moi parce que. Ben en fait, moi je me sens toute petite et pour moi je ne sais rien faire, mais c'est en marchant, en commençant à marcher, ben qu'en fait des choses se passent. Et c'est ce que moi je constate. Hein, au début, je lui dis, moi je n'ai même pas le bac, je ne sais rien faire. Et puis en fait, ben petit à petit, on marche, on prend de l'assurance et puis on découvre, comme disait le frère tout à l'heure, ben en fait des choses qu'on se croyait incapable de faire et puis finalement qu'on arrive à faire. Donc continuons à marcher, et comme disait tout à l'heure le chant, ben oui, réjouissons-nous de faire partie de ce peuple nombreux et tellement différent, mais tellement riche, de nos cultures différentes, de nos personnalités différentes, vraiment gloire à Dieu, et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, soit pour sa gloire et pour l'édification du corps du Christ, hein, parce qu'en fait, effectivement, on s'édifie aussi les uns les autres, notamment par le témoignage de chacun, si l'occasion vous était donnée à chacun de le faire. Voilà.
C'est encourageant quand même, non? Ça bouge. Ben voilà, moi je pense que le Seigneur vraiment fait connaître sa parole au travers de choses très simples, de la vie courante, l'un entendu d'une manière, l'autre d'une autre, et puis on s'identifie un petit peu les uns aux autres, et puis on comprend des choses. Et on devient chrétien, et c'est comme ça que ça se passe. Alors la semaine passée, par exemple, il y avait en première page, dans un journal arabophone, 150 personnes par semaine, 150 Algériens deviennent chrétiens chaque semaine. Alors, quand on a vu ça, on s'est dit, ben voilà, on n'a même pas besoin de faire de la pub, ils la font eux-mêmes. Et puis, donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je vous assure que Dieu a vraiment donné des moyens auxquels on n'aurait jamais pensé. Je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique du Nord, mais allez-vous balader un peu là-bas, vous verrez. Il n'y a pas une maison qui n'a pas sa couscoussière, là, sur le toit. C'est parabole, là, qu'on voit, et finalement, on peut rentrer dans toutes les maisons sans se casser la tête, quoi. Donc il faut juste, je pense que c'était bien raconté quand Karim parlait de quelqu'un, l'aborder pour lui dire « Tiens, tu veux pas remplacer telle personne, tu veux pas faire ceci ?» Moi je pense que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et puis on essaye, on fait le premier pas, et puis Dieu nous conduit. Puis après on se rend compte, on se dit « Mais finalement c'est comme ça qu'il faut faire. » Ben voilà, C'est pas parce que parfois on pense à l'évangélisation en se disant on va faire comme dans certains autres pays, on va remplir des stades ou des choses comme ça. Ben non, en Afrique du Nord, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Les choses se passent. Je pense à ce verset là qui dit ce qu'on vous aura chuchoté à l'oreille, criez-le sur les toits. Et quand on voit toutes ces paraboles sur les toits, ça arrive comme ça, les gens sont bien confortablement installés chez eux, puis ils regardent ça en famille en plus, donc ils peuvent en débattre entre eux et tout. C'est le moyen que Dieu a choisi pour ces derniers temps, quoi. Et je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui viennent à la foi, comme ça. Plus qu'on ne peut suivre, en fait. Il y a un ami, là, qui fait le travail de suite, donc... C'est un programme, par exemple, un petit débat comme ça entre deux, trois personnes. Et puis au fur et à mesure, dans l'émission, il y a le numéro de téléphone qui s'affiche. Et les gens voient, mais tiens, ça c'est un numéro de chez nous, ça. Tac, attends, on va essayer. Hop, clac, clac, clac. Et puis une discussion commence à s'établir. De quelle région est-ce que vous êtes? Quel endroit? Ah, ben, il y a un groupe de chrétiens dans cette région. On peut vous orienter, ceci, cela. L'Algérie, c'est grand, hein, c'est vaste, ça fait 4 fois la France, je crois. Donc, pour se déplacer, aller visiter les gens, c'est pas toujours possible. Hein. Mais par le moyen, voilà, du téléphone, tout ça, on oriente les gens et le travail se fait très naturellement. Donc, beaucoup de gens découvrent la foi et deviennent chrétiens, finalement. C'est un grand souci pour pouvoir les nourrir après et tout. Et bon, Karim vous a touché un mot, on veut faire un programme. Francophone maintenant, parce que on se rend compte, il y a beaucoup de satellites. Nous, on travaille surtout avec CNA, la chaîne nord-africaine, donc c'est un satellite qui tourne H24 et on fait, je sais pas, beaucoup de programmes pour cette chaîne. Donc c'est en kabyle, en arabe, en français, d'autres trucs. Vous pouvez taper sur votre ordinateur, hein, c'est disponible chez vous aussi. Si c'est du français, vous comprendrez. CNA, donc www.cna.net, c'est ça?
SAT,
voilà. Et vous allez voir nos programmes, nos émissions, ça vous donnera un petit peu une idée de ce qui se fait. Et donc voilà, on se rend compte que Dieu a permis que des moyens soient disponibles pour toucher des gens à des endroits auxquels on ne penserait jamais. Alors vous allez me dire, mais c'est très encourageant ce que vous dites là, mais est-ce que des fois ça se passe moins bien? Ben oui, malheureusement, il y a 2 semaines, donc c'était un jeune qui avait téléphoné, il était originaire de la région de Bouira, par là, arabophone, et puis il avait découvert ses programmes en zappant, comme ça, et puis vraiment, il voulait en savoir plus et tout. Donc mon collègue l'a prié avec lui au téléphone, il lui a dit, ben écoute, si tu veux, on va demander à Dieu qui se révèle à toi et ouvre ton cœur et tu vas voir, il va se passer quelque chose dans ta vie. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que son père est imam, donc bien engagé dans la religion islamique, et sans penser à mal, quoi, il a commencé à parler en disant, voilà, j'ai découvert la joie, j'ai découvert une raison de vivre et tout, Yeshu al-Messir, Jésus le Messie, etc. Et sa famille a commencé à le regarder de travers, ben, je vous assure qu'ils l'ont massacré. Il avait plusieurs côtes cassées, un traumatisme crânien, il est resté dans le coma pendant une dizaine de jours, quelque chose comme ça. On vient d'avoir des nouvelles il n'y a pas longtemps, et il est de nouveau, il est sorti du coma, il est de nouveau opérationnel, mais il est sur un jeu maintenant. Donc on a pris contact avec lui, il devait venir ce week-end à Béjaïa, donc les frères ont dû s'en occuper. Mais voilà, parfois ça se passe très mal. Et je pense que même le gouvernement finit par se dire, bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut, tout ça. C'est pas de là que vient le problème. Je pense que les premières grandes difficultés, c'est dans la famille. Dès qu'on se rend compte qu'il y en a un qui tourne sa veste comme ça, ou qui fait un autre choix que celui que la famille voudrait, ça se passe toujours mal. Et notamment pour les femmes. Hein. Les femmes sont très très bridées. Actuellement on en connaît une, on lui a enlevé son téléphone, elle ne sort plus de la chambre, voilà. Elle est vraiment séquestrée. Hein. Alors on attend, on prie pour elle, c'est la seule arme qu'on a. Priez vraiment quand vous avez des rencontres de prière. Pensez à ces gens qui sont, à qui on annonce une bonne nouvelle, mais qui parfois se transforment en une très mauvaise nouvelle, en tout cas pour leur vie personnelle. Mais je crois que Dieu intervient, il fait ce qu'il veut comme il veut, comme on dit, hein, parce que il abandonne pas les gens comme ça. Parfois, les gens passent par des épreuves catastrophiques. Hier, on a parlé tard le soir avec les frères. Après la réunion, quoi, on a dormi dans... Une de mes sœurs a prêté son appart, donc on était là, à quatre, et puis on a commencé à parler, et puis finalement, chacun a raconté ses petites misères, et par où il a dû passer, il y a eu des... Bon, je vous assure, ça s'est pas fait en un jour. On ne devient pas animateur télé comme ça, il est passé par un tas de souffrances, un tas de difficultés, etc. Et j'espère que ça vous a encouragé ce matin d'entendre ces choses, parce que c'est la réalité. Il y a des points très positifs. Par exemple, le 1er novembre, j'étais officiellement invité à la présidence de la République, à Alger, donc, et... Autour de moi, j'ai pu regarder, il y avait des ministres, des généraux, et puis le président est venu, je lui ai même fait l'accolade. Donc, vous voyez, Dieu transforme les choses, il change le mal en bien, vous voyez. Moi, jamais dans ma vie, j'aurais imaginé faire ceci ou cela, ou avoir de telles possibilités. Parfois on se plaint, on gémit même, on se dit non, on n'a pas de salle, on a une salle qui fait la moitié de celle-ci peut-être, et puis on s'entasse là-bas, là-dedans à 100, 150 parfois, et puis on se dit mais Seigneur, t'es sourd ou quoi? Et finalement, au travers de ces difficultés, ben on est formé. Et quand on ne peut pas faire comme on veut, on fait comme on peut. Et Dieu donne d'autres occasions et... Il y a des choses qu'on n'imagine pas, mais qui sont que Dieu rend possible, quoi, finalement. Cet été, par exemple, dans la région où était le premier Karim, là, un coup de téléphone, comme ça. Alors, allô, oui. Est-ce que tu seras intéressé? J'ai parlé avec le maire, donc c'est un frère de l'église, donc. Il me dit, j'ai parlé avec le maire, il serait prêt à mettre à notre disposition une place de camping, là. Ah, je dis, ah bon? Il me dit, oui, fais une demande et tu viens. Et... Je dis, ben, cet après-midi, je serai là-bas, hop, je suis vite allé. Pour la première fois, on avait tout un camping à notre disposition, avec combien? 30 toiles de tente de 8 places. Mais c'est merveilleux ce que Dieu peut faire. Ça, c'est des choses dont on a rêvé pendant des années, et voilà que tout à coup, le 27 juin, je crois, hop, c'est disponible. Eh bien, on a commencé le camp le 1er juillet. Et on est resté 2 mois et demi dans ce camp. On en a fait bénéficier toutes les églises de la vallée. Et voilà comment Dieu travaille et comment les choses deviennent possibles. Alors que, voilà. Moi, je suis convaincu que Dieu, non seulement va nous donner de l'espace, mais à la limite, je dirais, tant qu'on est à l'étroit, c'est un bon problème, ça. Il vaut mieux être à l'étroit et prier et avoir une foi vivante et tout ça que de voir toutes ces cathédrales qui sont en Europe qui se remplissent une fois par an, c'est ça? Voilà, donc Dieu aujourd'hui nous visite, Dieu nous bénit, on voit de nos yeux, on entend de nos oreilles et les choses vraiment se font d'une manière magnifique. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui se fait. J'espère qu'on vous a stimulé un peu et que vous allez continuer à prier pour nous et que vous allez aussi faire la même chose parmi vous. Hein ? On aura peut-être besoin de l'un ou l'autre parmi vous pour faire quelques programmes. On serait ravis d'accueillir quelques-uns parmi vous, hein, avec plaisir. Le studio est dans la région parisienne, c'est pas loin. Voilà. Donc nos deux frères vont nous quitter maintenant parce qu'ils doivent prendre le train à 13h, là. C'est plaisir, hein. Voilà, je vais peut-être conclure juste par la prière. Voilà. Et unissons-nous vraiment dans la prière pour... vraiment remercier Dieu pour ses ouvertures, ses difficultés aussi. Bénissons-le pour les difficultés. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que nous voyons que nous sommes des sujets vulnérables, des sujets simples. Seigneur, tu ne nous as pas choisis pour nos qualités, Seigneur, mais parce que nous avons exprimé un désir de te connaître, de te suivre. Et Seigneur, tu t'es révélé à chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu veux nous utiliser vraiment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, garde-nous dans l'humilité, dans la simplicité, Seigneur. Nous aimerions vraiment être des serviteurs, vraiment. Seigneur, façonne-nous à ton image, Seigneur. Que les gens qui nous entourent puissent vraiment être interpellés par la bonne odeur de Christ que tu as mis en nous, Seigneur. Donne-nous d'être vraiment des sujets patients, remplis d'amour aussi, Seigneur. Seigneur, nous savons que quand nous nous laissons remplir de ton amour, c'est une chose qui attire les gens, Seigneur, et qui vraiment, ils deviennent tout ouïe pour entendre ton message, Seigneur. Seigneur, que sur nos lieux de travail, dans nos vies de famille, Seigneur, que partout, Seigneur, nous puissions constater que tu es à l'heure, Seigneur, et vraiment, tu nous fais du bien, Seigneur, chaque jour de nos vies. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront chaque jour de notre vie, comme l'a dit le psalmiste. Amen. Amen.